L'atelier des médias.
L'atelier des médias a fêté il y a quelques mois ses 7 ans. 7 ans, c'est l'âge de raison pour les plus jeunes et peut-être aussi pour les projets à forte dimension numérique. De plus en plus, nous sommes sollicités pour parler de notre expérience, de nos projets Mondoblog, Bibiablog, Arablog maintenant. Partager sur ce que notre présence en ligne, la gestion de communauté, le mélange des types de diffusion nous ont appris. Je profite donc de ces quelques instants d'introduction pour revenir sur quelques idées. L'humain d'abord, les robots sont partout et vous facilitent la vie numérique au point de vous permettre de faire en quelques minutes ce qui prenait des semaines, des mois auparavant, comme créer un site, lancer un média, lancer une boutique en ligne. La facilité avec laquelle on peut lancer un projet aujourd'hui ne doit jamais faire oublier que sa première valeur, ce sont les femmes, les hommes, qui investissent leur temps et leur intelligence. Mondoblog ne serait rien sans les petites mains qui chaque jour relisent et communiquent avec les blogueurs par mail. Il ne serait rien sans les échanges quotidiens par Facebook, par courriel, par commentaire interposé entre nos 600 blogueuses et blogueurs dans le monde. Oubliez l'humain, c'est créer des déserts numériques. Seconde et dernière leçon pour aujourd'hui, n'oubliez pas qui vous êtes. Depuis l'arrivée du web, les radios sont presque toutes devenues des concurrentes de médias anciennement spécialisés dans le papier ou la télévision, au point que trop souvent elles négligent leur identité dans leur stratégie numérique. Une radio se définit avant tout par l'absence de support visuel, une absence qui ouvre l'imaginaire, qui permet une écoute flottante en conduisant ou en cuisinant, une absence qui fait croire à certains que j'ai 17 ans, j'ai lu ça sur Internet. Bien entendu, il faut maintenant penser au web, à nos sites, à notre accessibilité en ligne, mais notre priorité doit être au podcast, au stream, aux radios, par Internet, à toutes ces nouvelles manières de nous écouter, trop souvent délaissées dans les politiques des radios historiques.
L'atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon de Creuse.
Et vous.
Nos invités aujourd'hui ont choisi de remettre le citoyen au centre de la vie politique. Il y a 5 ans, ils ont lancé nosdéputés.fr pour permettre au plus grand nombre de suivre, d'observer, de juger l'activité de ces élus en France. Depuis, ils ont multiplié les sites, les projets, les plaidoyers pour une vie publique plus juste, plus transparente, plus citoyenne. Tanguy Morlier, François Massot et Benjamin Hogg-Tabanou sont tous trois membres du collectif Regards Citoyens. Nous les retrouvons dans un instant, juste après la chronique américaine de Marie-Catherine Beuth. Dans presque une heure, Francis Pisani nous parle de l'influence des jeunes sur l'évolution des villes.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
Bonjour Marie-Catherine Beuth.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ça va très bien.
Le magazine Fast Company vient de sortir son classement annuel des entreprises les plus innovantes et parmi ces entreprises, plusieurs médias.
Oui, le magazine Fast Company a coutume de couvrir l'innovation à travers toutes les industries et a distingué cette année 10 entreprises dans le domaine des médias qui sont en train de faire des choses innovantes. En tête du classement, on trouve le Washington Post, suivi de l'offre vidéo du site d'information virale BuzzFeed, la plateforme de streaming de vidéos LiveStream ou le site d'actualité dédié à la mode Business of Fashion. Il y a également des acteurs plus connus comme la plateforme de blog Medium ou le quotidien britannique The Guardian.
Qu'est-ce que les médias distingués dans ce classement ont en commun, Marie-Catherine ?
Oui, j'ai voulu regarder un petit peu qu'est-ce qui unissait ces différents succès individuels pour voir si on pouvait en déduire ce qui était porteur d'innovation dans les médias. Et on note une première grande tendance qui est qu'il y a une vraie prime pour les créateurs de plateformes, pour créateurs de contenu, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Par exemple, Medium est une plateforme pour blog, Livestream.com est une plateforme pour diffuser des vidéos en direct et PRX, Public Radio Exchange, est une plateforme de distribution de programmes radio sur Internet. Aux antipodes de ces champions du contenant, Fast Company a aussi choisi de distinguer des créateurs de contenu, mais des contenus très particuliers. J'ai ainsi découvert Brown Book, un guide urbain du Moyen-Orient, ou donc Business of Fashion, dédié à l'économie de la mode. On trouve aussi dans cette catégorie le site DigiDay, qui se penche sur la publicité numérique et essaye de raconter comment des nouveaux acteurs comme Facebook et Snapchat sont en train de bousculer le monde de la communication en ligne. Dernier point que l'on retrouve en commun dans ces médias innovants, il y a une vraie prime pour les médias visuels, donc la vidéo sur BuzzFeed et Livestream, mais aussi la photographie qui est très importante sur Brown Book. Et moi, je mettrais même dans cette catégorie le design très léché de Medium qui montre qu'il y a une vraie valorisation des médias, des services qui ont pris le virage du web de plus en plus visuel.
Merci Marie-Catherine. Je rappelle qu'on peut lire tes contributions sur ton blog de l'Atelier des médias. On peut aussi découvrir ton blog personnel sur le site du Figaro. Il s'appelle Étreinte Digitale. On peut enfin découvrir tes projets, notamment News on Demand Node, qui est disponible sur l'App Store. À bientôt.
À bientôt.
RFI.
Je suis sûr d'une chose. Twitter, les blogs, les médias enrichis, toutes ces choses n'ont aucune profondeur. Elles ne dureront pas. Et je refuse de me laisser distraire par ce qui est à la mode.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias.
Ils se sont emparés des données publiques liées à la vie politique française pour proposer des visualisations et des services innovants. Leur objectif, remettre le citoyen au centre de l'action politique grâce au numérique. Leurs outils, l'internet, le code et le lobbying. Depuis 5 ans, le collectif Regard Citoyen œuvre bénévolement, discrètement, efficacement pour promouvoir l'ouverture démocratique en France. Ils militent pour plus de données ouvertes, plus d'informations, plus de transparence. Nous les avions reçus en 2010 pour parler de leur site nosdéputés.fr. Depuis, ils ont lancé nossénateurs.fr, lafabriquedelaloi.fr, nosfinanceslocales.fr et des dizaines d'autres projets. Pour dresser le bilan de leurs actions, revenir sur les progrès de la France dans le domaine de l'ouverture des données et de la transparence de la vie politique, pour évoquer également les grands chantiers d'avenir, nous recevons 3 membres de Regard Citoyen. Tanguy Morlier, François Massot et Benjamin Hogg-Tabat. À nous. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Un mot tout d'abord sur la manière dont est né ce projet il y a 5 ans. Tanguy.
Eh bien, Regard Citoyen, c'est né de la rencontre de citoyens sur Internet qui s'intéressaient à des projets de loi qui étaient discutés au Parlement. On était militants, soit dans le numérique, dans l'écologie, ou simplement intéressés. Et on a débarqué comme ça sur le site de l'Assemblée nationale à regarder les vidéos. Quelques-uns d'entre nous sommes même allés suivre les débats à l'Assemblée nationale et on s'est aperçu que nos parlementaires travaillaient. Ils travaillaient plus que ce qu'on voyait le mercredi matin lors des questions au gouvernement. Ils bossaient jusque assez tard, 1h30, 2h du matin. Et que tout ce travail-là, eh ben, en fait, il n'était pas visible des citoyens. Et peut-être que nos capacités d'informaticiens pouvaient aider à valoriser ce travail.
C'est-à-dire, il n'était pas visible?
Eh ben, c'est assez peu connu que les parlementaires travaillent jusqu'à 1h30. La légende veut que les parlementaires ne travaillent pas beaucoup. On avait matériellement vu l'inverse. Et donc, on s'est dit qu'en allant exploiter les données, en transformant les documents parlementaires en données et en créant des visualisations ou des outils comme nosdéputés.fr, on pouvait mieux valoriser la démocratie.
Et comment vous avez fait donc concrètement, Benjamin ?
Concrètement, pour créer nosdéputés.fr, en fait, on a passé les 3/4 du temps à créer des sortes de petits robots qui vont aller fouiller toutes les 4 ou 8 heures, suivant les périodes, le site officiel de l'Assemblée et le journal officiel, et extraire des pages internet des sites officiels les éléments qui correspondent en fait à des données, parce qu'en fait, on a des comptes rendus de séances, des pages qui présentent la description d'un parlementaire, et tout ça, c'est des choses qui peuvent être reconverties en données sous la forme de nom, machin, profession, avant d'être parlementaire, ceci, tel jour une intervention sur tel projet de loi, à telle heure, sur tel sujet, et ainsi reconstituer une sorte de grosse base de données qui permettrait du coup nous d'analyser ces données et ensuite de proposer un site, une interface
qui s'appelle nosdéputés.fr
qui permet ensuite aux citoyens de se rapprocher des parlementaires, de voir vraiment ce qu'ils font. Concrètement, quand on va sur le site officiel de l'Assemblée, si on veut savoir qui est son député, c'est un peu compliqué et il faut chercher sur plein de pages pour arriver à trouver.
Et c'est encore sur la plus page compliqué d'accueil, on veut savoir qu'est-ce qu'il fait concrètement, quand est-ce qu'il était présent, etc. Là, il faut aller au journal officiel, il faut fouiller dans le site de l'Assemblée pour voir s'il participe à des commissions, etc. etc.
Alors en fait, oui et non. Parce que depuis l'existence de nosdéputés.fr, le site de l'Assemblée a beaucoup bougé, ce qui fait que ça casse nos robots à chaque fois parce qu'il faut qu'on les reprogramme, parce qu'ils reposent sur les pages officielles. Donc on est obligé de les modifier. Mais depuis, du coup, l'Assemblée nationale propose beaucoup plus d'informations, ou du moins permet de retrouver beaucoup plus facilement l'information.
Et là, vous êtes en train de répondre à une des questions qui ont été posées sur le site de l'Atelier des médias, notamment par Devrim Alpoge de Paris. Manon, la question ?
Alors, il se demande comment est-ce que vous faites pour accéder à ces données ? Est-ce que c'est un logiciel qui le fait ou bien est-ce que c'est vous-même ?
Donc, la réponse, c'est un peu des deux, c'est ça, Tanguy ?
Alors, c'est essentiellement des logiciels. Nous, on a créé les logiciels, contrairement à nos homologues tunisiens, par exemple, qui, eux, sont présents au Parlement pour pouvoir noter l'ensemble des présences et des votes. Donc là, il y a besoin de beaucoup de main d'œuvre et une présence quotidienne. Nos robots travaillent pour nous, donc on va vérifier très régulièrement l'import de ces données. Mais la majorité du travail est fait par ces petits robots qu'on a longuement entraînés.
On s'était parlé, Tanguy, en 2010. C'était toi qui étais venu dans l'atelier parler de nos députés.fr. À l'époque, que vous aviez des difficultés d'accès aux données, une difficulté aussi quant au format dans lequel ces données étaient délivrées. Puis aussi, vous aviez un accueil qui était assez mitigé, bon, pas de la part du public, mais en tout cas de la part des députés. Comment ça a évolué, tous ces dossiers ?
Du point de vue de l'accueil, ça a beaucoup évolué. Au Sénat, quand on a commencé à travailler sur nossénateurs.fr, l'administration du Sénat nous a ouvert ses portes.
Donc là, tu anticipes parce que 2 ans après nosdéputés.fr, vous avez lancé nossénateurs.fr, voilà, selon le même principe.
Exactement.
Suivre la vie sénatoriale.
C'est le même logiciel. Après, on a recréé tout un tas de moulinettes, ces petits robots qui viennent chercher l'information. Mais là, l'administration du Sénat nous a ouvert ses portes pour qu'on puisse dialoguer avec les équipes techniques. Donc c'était assez agréable. En revanche, pour la partie mise à disposition des données, on a toujours des difficultés et donc c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps à venir traduire ces documents en données. Et normalement, l'arrivée des données, en tout cas à l'Assemblée nationale, devrait être prochaine, mais n'est pas encore effective.
Je crois qu'on peut même ajouter que le Sénat a un site internet où il publie ses données. Et donc ça, c'est une vraie avancée depuis que nos sénateurs.fr a vu le jour.
Pour savoir ce que pensent les élus de Regards Citoyens et de nos députés.fr plus particulièrement, je me suis rendu à l'Assemblée nationale, je me suis posté salle des quatre colonnes. J'ai découvert un des décors quotidiens du journaliste politique en France. Merci d'ailleurs aux nombreux confrères qui m'ont permis de repérer les quelques députés qui ont accepté de répondre à mes questions.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias.
Laurent Baumel, vous êtes député PS. Est-ce que vous connaissez le travail de Regards Citoyens ?
Ça me dit rien.
Vous connaissez probablement leur site principal, leur action principale qui s'appelle nosdéputés.fr. Ça vous dit quelque chose, ça ?
Ouais, je crois que j'en ai entendu parler, oui.
D'accord. Vous connaissez pas plus, en fait, c'est un collectif ?
Oui, qui fait des statistiques de présence, des choses comme ça.
Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je suis assez dubitatif sur ce type de critères d'évaluation des députés parce que moi, je vois des collègues qui sont présents dans l'hémicycle, qui lisent le journal, qui pianotent sur leur portable, qui viennent parce qu'on leur a demandé de venir pour voter les lois du gouvernement ou pour repousser des amendements de la droite. Je trouve que en général, ce type d'analyse survalorise la question de la présence, comme si on était à l'école, vous voyez, voilà. Pour moi, si vous voulez, ces débats-là sont moins importants que la question de savoir si les parlementaires, par exemple, et je pense en particulier aux parlementaires de la majorité, se donnent les moyens de peser sur la politique gouvernementale. C'est des questions plus politiques, mais plus fondamentales que ces affaires de transparence, de présence, qui sont pas inintéressantes, mais qui sont un peu secondaires, en réalité.
Thierry Soler, vous êtes député des Hauts-de-Seine. Est-ce que vous connaissez le travail de Regards Citoyens ?
Oui, je connais le travail de Regards Citoyens. Ça fait partie de ces collectifs qui se sont créés, qui utilisent parfaitement, d'ailleurs, l'outil qui est Internet, pour faire des données précises à la disposition du public pour mettre plus de transparence dans la vie démocratique. Alors par nature, c'est parfois critiqué parce que c'est quelque chose qui ne vient pas d'en haut, c'est quelque chose qui vient d'en bas. Chaque citoyen pourrait faire le travail que fait Regards Citoyens. C'est une source d'information intéressante. Moi, je trouve qu'ils font du bon boulot. Ils réfléchissent par ailleurs beaucoup à des sujets concrets, sans idéologie, me semble-t-il, trop exacerbée sur une évolution qui devrait être celle du monde politique. Et souvent, je partage leur position. C'est pour ça que souvent, j'ai voté des propositions de loi ou des amendements qui visaient à changer quelques règles du jeu dans cette belle maison qu'est l'Assemblée nationale.
Pour que ce soit plus transparent, pour qu'il y ait plus de redevabilité, pour que les conflits d'intérêts soient plus connus, toutes ces choses-là, ce sont des choses, des combats qui vous semblent importants.
Oui, parce que ce qui est le pire dans la vie politique, c'est l'amalgame, voilà, donc la transparence, c'est très bien, il faut que ça soit clair. Je préfère que l'institution se modernise pour qu'un député, ça soit comme un autre. On est payé, on paye des impôts comme tout le monde, ce qui est d'ailleurs le cas. Ça évitera les amalgames mais par contre, voilà, que les Français puissent suivre, s'ils le souhaitent, plus dans le détail, comment ça se passe ici. Et Regards Citoyens participe de cela.
Vous avez plusieurs collègues à qui j'ai parlé, j'ai pas parlé aux 570 députés, mais avec quelques-uns, qui regrettent le côté un petit peu trop surveillance, sans critique, sans mise en perspective des données qui sont sont présentés, qui disent moi j'étais absent pendant 2 mois, j'étais malade, etc.
En fait, il y a un aspect pervers à ces données brutes, c'est qu'elles peuvent participer d'une forme de démagogie. Parce qu'au fond, par exemple, regardez, si je viens dans un débat à l'Assemblée nationale sur la poursuite de l'engagement de la France militaire en Centrafrique, par exemple, si je ne prends pas la parole dans l'hémicycle à l'occasion de ce débat, je suis considéré comme absent au regard du décompte. Je ne suis pas noté comme présent. Ça va donc m'inciter à ouvrir la bouche pour dire 3 mots simplement pour être noté présent. Je ne suis pas certain que ça soit un progrès. Alors maintenant, moi, je ne veux pas faire cette critique-là. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, on peut toujours vouloir trouver des excuses. Moi, je suis favorable à plus de transparence. Et c'est comme ça qu'on arrêtera la défiance qu'il y a trop souvent entre les Français et leurs représentants à l'Assemblée nationale.
Isabelle Attard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée Nouvelle Donne ici à l'Assemblée nationale, c'est ça ?
C'est ça, exactement.
Est-ce que vous connaissez d'abord le travail de Regard Citoyen ?
Oui, je pense le connaître même très bien.
C'est-à-dire ?
Suivre les avancées, les questionnements, aider par une discussion fructueuse à l'amélioration de sites comme nosdéputés.fr par exemple. Et je trouve que c'est passionnant de suivre ce travail-là.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans leur travail ?
C'est toujours de se poser la question de comment rendre des comptes, comment les parlementaires sont amenés à rendre des comptes à ceux qui les ont élus, comment se passe le travail, les interactions entre parlementaires et électeurs, citoyens, associations qui se posent des questions et qui luttent pour plus de transparence de leurs députés.
Est-ce que vous pensez qu'il y a encore beaucoup de travail dans ce domaine ? Est-ce que vous pensez qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été accomplies pour contribuer à une plus grande transparence dans la vie politique, dans le travail de l'Assemblée, etc.
Tout dépend de quel point de vue on se place. Je trouve que c'est pas assez rapide. Il reste encore beaucoup de travail à faire. On peut aussi se dire que le fait d'avoir une réserve parlementaire qui est la même pour tout le monde, ou presque, depuis juillet 2012, instaurée par Claude Barthelone, c'est déjà une grande avancée. Que la loi sur le non-cumul des mandats, qui sera efficace à partir de 2017, c'est une avancée également. Mais personnellement, ça ne me suffit pas du tout. Je pense qu'on a raté l'occasion de faire quelque chose de grand. La transparence, pourquoi ne pas l'imposer ? Pourquoi attendre que ce soit un collectif ou une association telle que Pour une démocratie ouverte ou bien Regain Citoyen qui pousse à bout finalement les institutions et qui les oblige à plus de transparence ? Pourquoi ça ne peut pas venir de nous ?
Dernière chose, est-ce que vous avez une question, une recommandation, quelque chose à dire à l'équipe de Regard Citoyen qui nous écoute là ?
Ne mettez plus les questions écrites comme un bon critère de jugement de l'action d'un député. Si je voulais, effectivement, je pourrais avoir un attaché parlementaire qui passe sa journée à écrire des questions écrites pour remonter mes statistiques. Je pense que l'action d'un député ne se juge pas au nombre de questions écrites.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet. http://atelier.rfi.fr.
C'était Laurent Baumel, député PS, c'est d'ailleurs l'un des initiateurs et des animateurs du collectif Vive la Gauche, qui rassemble ceux qu'on appelle les frondeurs. Thierry Solaire est ensuite député UMP, et Isabelle Attard, députée Nouvelle Donne, qui vous a adressé un reproche, posé une question sur donc le critère des questions pour juger de la participation des députés. Et j'imagine que vous avez pas mal de choses à dire sur l'ensemble des choses qu'on a entendues. Tanguy.
Sur la remarque d'Isabelle Attard, nous on estime pas que les critères qu'on publie sur notre site sont bons ou mauvais. On estime que c'est au rôle de nos visiteurs, au rôle des citoyens, d'évaluer si un critère est bien ou n'est pas bien. Lorsqu'on est de la majorité, on va avoir tendance à avoir le critère d'amendement adopté plus important qu'un député de l'opposition. Et peut-être que quelqu'un qui a des opinions politiques proches de l'opposition va être plutôt intéressé par un député qui a peu d'amendements adoptés, parce qu'il estimera qu'il fera bien son travail d'opposition. Et sur le critère de questions écrites, c'est un critère qui est vieux comme le contrôle parlementaire. Déjà dans les années 70, il y avait des news magazines qui faisaient des classements de parlementaires et qui utilisaient déjà les questions écrites, et c'est les parlementaires qui jouaient de ce critère-là. Donc on est conscient qu'il y a des parlementaires qui jouent des critères, mais ils le jouent avant l'existence de nosdéputés.fr, et donc on peut pas être coupable de ce jeu-là.
Benjamin.
Et c'est notamment pour ça que, comme on propose plein de critères, on ne propose pas de les assembler. On ne met pas des coefficients sur les questions écrites multipliés par deux les amendements. amendements et diviser par 3 les interventions, on additionne les patates et les choux et ensuite on donne un classement. Ça, c'est la responsabilité de n'importe qui veut réutiliser les données. C'est pour ça qu'on remet à disposition tous ces éléments bruts qui sont des lignes une par une. Si on veut, sur nos sites, on peut classer par une colonne, si on veut voir effectivement celui qui pose le plus de questions écrites. Mais au-delà de ça, nous, on propose pas de faire un classement global parce qu'on estime que c'est justement très difficile.
On marque une courte pause dans l'atelier. On se retrouve dans un instant. Atelier des médias, nous sommes cette semaine avec le collectif Regards Citoyens depuis 5 ans. Ils œuvrent notamment avec les outils numériques pour une plus grande transparence de la vie politique en France. Dans 20 minutes, ce sera la chronique de Francis Pisani, notre sage maison.
L'Atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Diane Malouf, Simon de Creuse.
Et vous, vous.
Tanguy, Benjamin, François, est-ce que vous connaissez Bausala ?
Oui, bien sûr.
Benjamin.
Al-Bausala, c'est l'association qui s'est créée en Tunisie à l'image un peu de Regards Citoyens, qui a créé un site qui est équivalent à nosdéputés.fr qui s'appelle marsad.tn, qui a proposé d'abord à tous les citoyens tunisiens de suivre la TNAC, l'Assemblée tunisienne de création de la Constitution tunisienne. Puis désormais que la Constitution a été votée et que les parlementaires ont été élus, ils commencent là à suivre de près l'établissement de cette nouvelle chambre tunisienne. Et ça a l'air passionnant. Je parlais avec Amira récemment, qui est l'une des fondatrices de l'association.
Amira Yaryaoui.
Et qui expliquait qu'ils sont en plein dialogue avec les parlementaires qui sont en train d'écrire le règlement de leur assemblée. Nous, on passe notre temps à éplucher le règlement de l'assemblée et à dire bonjour monsieur Bartolone, mais là on pense que sur les votes, on pourrait faire des choses pour que ce soit beaucoup plus transparent, etc. Eux, ils arrivent, il n'y a encore aucune règle. Et ils disent, là, vous pouvez pas faire ça comme ça, il va falloir faire ça comme ça. Et du coup, ils sont un peu dans une situation qui est rêvée par rapport à ce que nous, on vit, où ils arrivent à accompagner les parlementaires dans l'établissement d'un règlement qui permette la transparence. Et alors, en plus de ça, ils ont un fonctionnement qui est magnifique, c'est que, comme ils ont tous ces droits, ils ont pu arriver à faire comprendre que ils ont besoin d'avoir des caméras quand ils sont dans le public, dans les tribunes de l'Assemblée. Nous, en tant que public, quand on va dans les tribunes de l'Assemblée, on a droit à rien. Un papier, un stylo, mais alors, si on veut avoir un téléphone ou quoi que ce soit, c'est pas possible. Eux, ils ont des caméras et ils filment en croisé les votes des parlementaires pour pouvoir ensuite aller dire machin a voté ça, machin a voté ça, etc.
Nous avions reçu Hans Abdelkrim de l'équipe de Bausala en fin 2013, qui nous a raconté donc le travail de Bausala. À l'époque, c'était la surveillance, le monitoring de l'Assemblée constituante. Depuis, tu l'as rappelé, donc le 26 janvier 2014, il y a eu la Constitution, puis des élections législatives. Le 21 janvier dernier, donc il y a quelques jours, avec Simon, nous étions à Tunis. Nous avons retrouvé Hans et son équipe au sein de l'Assemblée nationale, donc du Majlis, comme on l'appelle en tunisien. C'était un jour très important pour l'équipe de Bausala, car l'Assemblée était en train de légiférer sur son règlement interne. Quand nous arrivons, un amendement vient d'être rejeté.
Juste ça. Donc là, en fait, ils sont en train de voter sur les amendements relatifs à l'article pour l'absentéisme des députés. Quelles sont les mesures à mettre en place, justement? Donc, vous êtes arrivés juste à temps. Donc là, en fait, c'est un article qui régule à peu près les absences et tout. Donc, en cas d'absence, quelles sont les mesures qui vont être prises? Et donc là, ils viennent de rejeter un amendement qui dit qu'on supprime tout mécanisme de redevabilité si jamais un député est absent. Donc on est assez content que les députés aient voté contre.
Et toi, tu es en train de...
Là, moi, en fait, je suis en train de live-tweeter. Donc tout ce qui se passe, afin que les gens, justement, qui puissent pas regarder la télé, parce que ça passe à la télé normalement, puissent être en mesure de suivre ce qui se passe. En fait, surtout que pour nous, c'est une des questions les plus essentielles. Là, l'Assemblée est en train de discuter le règlement intérieur, donc c'est quelque chose d'essentiel à son organisation. Donc c'est important que les gens puissent suivre.
Et toi, tu es en train de live tweeter donc sur le compte Al-Bausala TN en français, alors que tout est en arabe.
En français, pour que justement, que ce soit la communauté internationale ou les gens puissent suivre ce qui se passe en fait. Donc j'énonce à peu près les résultats avec combien de pour, combien d'abstentions et combien de contre.
Donc, amendement relatif à la formulation acceptée,
voilà, donc
avec 147 pour, 3 abstentions et 9 contre.
Exactement. Donc, en fait, là, c'est le troisième amendement. Il est relatif à, justement, parce que là, on va dire, l'article actuel, il comprend juste les absences lors de la séance plénière. Donc là, c'est un article qui vise à inclure les absences en commission pour dire si un député s'absente,
en commission, bah, il y a une déduction de son indemnité, en fait. Donc, on va voir si ça va être accepté ou pas. Donc là, il va avoir un avis pour et un avis contre. Et moi, je t'invite à parler à elle. Parce qu'elle, elle filme en parallèle, en fait. Hein.
Alors, elle, c'est qui?
Donc, elle, c'est Emla Chebaran, c'est la coordinatrice du projet. Donc, elle est là tout le temps. Et en fait, elle filme la salle lors du vote.
Bonjour Emma. Toi, tu as un appareil photo?
Oui, voilà, un appareil photo iPad.
Un iPad qui est avec ta collègue, oui. Qui s'appelle
Cyrine. En fait, au moment du vote, on a 30 secondes pour prendre l'écran, le texte voté, l'hémicycle qui est affiché avec les voix pour, contre, abstention, et la vidéo pour voir la salle au moment du vote, pour repérer ensuite les élus, où est-ce qu'ils sont assis, pour après faire en fait une traçabilité, recoupement des images.
Donc il y a un grand écran où l'assemblée va apparaître en fait en image, c'est ça? Et toi, tu vas photographier cette...
Voilà,
cette...
la disposition de la salle. Et en fait, c'est 30 secondes de vote et on prend en fait rafale d'images pour recouper ensuite les votes des élus, pour savoir qui a voté pour, contre, abstention.
Et après, à partir des photos, vous déduisez qui a voté quoi et vous vérifiez les votes, c'est ça? Et ça prend combien de temps, ça?
Bah, un vote, ça peut prendre 15 minutes, mais après, lorsqu'il y a un cumul de votes, en fin de journée, ça peut... 20 votes par exemple par journée, ça peut me prendre ensuite 3 jours de recoupement.
Et qu'est-ce qui fait recoupement?
Bah, essentiellement moi, mais il y a 2 autres collègues qui font ça aussi avec moi de temps en temps. Donc voilà.
Donc là, il y a un monsieur qui est en train de parler, qui est en train d'argumenter pour ou contre l'amendement, c'est ça?
Voilà. Chaque proposition d'amendement, il y a un avis pour, contre, et ensuite on vote.
Donc faut surtout pas que je te dérange au moment du vote, hein, parce voilà. Que et tu fais ça depuis combien de temps?
Plus de 2 ans que je fais ça.
Tous les jours ou à chaque fois que l'assemblée
qu'il y a plénière ou commission, on est là.
Toutes les commissions aussi?
On va essayer maintenant de couvrir toutes les commissions.
Attention. Donc là, tu diriges ton appareil photo vers l'écran où on voit vaguement les votes. Ouais.
Voilà.
Et toi, tu me montres l'image de l'Assemblée avec des points rouges, des points jaunes et des points verts.
Voilà, c'est les pour, contre, abstention.
Et alors là, c'est quoi le résultat de l'amendement, du vote?
Le bon amendement est passé.
Alors, ça s'est bien passé?
Bah, en fait, là, on est content, encore une fois.
Pourquoi?
L'amendement, il a été accepté. Donc, aujourd'hui, l'Assemblée a voté avec plus de 110 députés que les absences en commission seront aussi considérées comme les absences en séance plénière. Et il y aura justement des mesures pour la déduction des indemnités des députés qui s'absentent plus de 6 réunions en commission. Ce qui est top. Et juste pour info, on a parlé de nous pas mal de fois là.
On a entendu votre nom. Ouais.
On disait oui, Alban, ça est là pour publier les absences et tout. Et donc du coup, on est assez content que justement que ça suscite le débat.
Donc là, c'est un grand moment pour vous. Hein. On arrive.
Oui. Vous arrivez vraiment au bon moment. C'était pas prévu, mais on est assez content. On est vraiment très très content en fait. Non mais c'est trop bien. Mais t'as vu le mec de Moubedra? Oui, c'est un Moubedra. Le gars qui a dit que le fait de déduire des indemnités, ça touche au prestige. Allez, je te tiens au courant, hein. Je retourne tweeter.
Vous avez écouté attentivement, vous avez pas mal de choses à dire, Benjamin.
Bah, c'est une excellente chose, c'est plutôt rassurant pour la démocratie en général et encourageant peut-être pour la démocratie française. Après, comme le disait Tanguy tout à l'heure, on est dans une situation où maintenant on commence à être relativement installé, ça fait plus de 5 ans qu'on existe, on commence à avoir une écoute un peu plus forte de certaines des institutions, donc forcément voir ça en Tunisie c'est super enthousiasmant.
Et on a besoin de ces Tanguy. Exemples pour sensibiliser nos élus, de dire mais regardez ce qui se passe.
Il y en a d'autres.
d'ailleurs. Il y en a au Liban, il y
bien
en
sûr.
A d'autres dans,
et
dans le monde.
Il y a plein de démocraties qui sont beaucoup plus en avance que le pays des droits de l'homme. Et avoir des exemples comme ça qui montrent que les choses peuvent bouger, c'est hyper rafraîchissant pour nous.
Moi, juste un François. Commentaire pour dire, les quelques fois où moi je suis allé à l'Assemblée avec Regards Citoyens, c'était de voir certains députés qui consultent leur page nosdéputés.fr. Donc juste de... Et ce qui est extraordinaire en tant que citoyen lambda, c'est de voir effectivement qu'un simple outil de monitoring, ça intéresse en plus ces élus qui se sentent un peu aussi surveillés, et quelque part ils sont redevables de montrer ce qu'ils font et d'expliquer aussi un minimum leurs actions.
Manon.
Une question de Médard du Rocher de Kinshasa en République démocratique du Congo qui se demande si vous agissez en dehors de la France et ce que vous pourriez faire pour les Africains.
Notamment.
Alors, on a peu fait de choses, mais on a travaillé avec les gens du Sénégal et notamment du Dakar Log, qui est une association liée au logiciel libre, mais qui agit aussi beaucoup sur la transparence. On a travaillé avec l'un de ses membres, Patrick Soukami, avec qui on a cherché à extraire les données des marchés publics. Nous, c'est un sujet qu'on suit en France et on se désespère de ne pas avoir du tout accès à ces données-là.
C'est-à-dire ?
Eh bien, l'ensemble des marchés publics qui sont passés en France.
Donc, que ce soit ceux de l'État, ceux des collectivités,
voilà.
etc.
Donc il y a un service à Bercy qui les collecte pour pouvoir réaliser les paiements. Donc on connaît toutes les entreprises qui ont pu avoir accès au marché public et la somme de ces argents-là. Donc il existe une base de données, le seul truc c'est qu'elle n'est pas publique en France. Et en allant au Sénégal, en étant invité par Silicon Sentier et l'Institut français là-bas, on a retrouvé des hackers sénégalais de Wikimedia et du Dakar Log. Et donc avec Patrick, on s'est aperçu qu'il y avait l'ensemble des marchés publics qui étaient publiés sous un format PDF. Alors c'est pas idéal parce que c'est compliqué à traiter, mais du coup on a converti ces marchés publics en données pour pouvoir réaliser des data visualisations. On n'est pas très actif en Afrique, mais ponctuellement, notamment grâce à l'aide de l'Institut français, on a pu rencontrer nos homologues hackers africains et mener des petits projets ensemble.
Institut français qui nous a aussi beaucoup aidé à l'atelier des médias pour notre projet Mondoblog. Benjamin, juste une question, et je sais que tu veux dire quelque chose, mais je pense que c'est peut-être la même chose. Est-ce que vous suivez ce qui se passe dans le reste du monde plus généralement?
On est la preuve en France, mais il y a des preuves comme ça dans le monde entier, dans tous les pays, que en fait, il suffit des bonnes volontés de quelques citoyens qui ont envie de s'investir dans la démocratie et envie de faire bouger un peu le système démocratique tel qu'il est, de s'y intéresser de près, d'intéresser les autres citoyens pour arriver à faire bouger les lignes. C'est peut-être une communauté qui doit se limiter, je sais pas, à peut-être 500, 1000, 2000 personnes si on est généreux, peut-être dans le monde, qui sont les gens qui développent ces outils. Mais pour autant, à mon avis, tous à leur niveau font des choses très intéressantes.
Donc avis aux observateurs citoyens qui nous écoutent dans le monde, s'ils veulent votre soutien, s'ils veulent savoir comment vous faites, ils peuvent vous contacter, j'imagine.
Absolument, nos logiciels sont libres, donc on peut très bien imaginer que quelqu'un réutilise le logiciel qu'on utilise pour créer un nos députés dans son pays.
Vous l'avez rappelé à plusieurs reprises, vous avez des occupations en dehors de Regards Citoyens. Comment vous faites pour faire tout ça, en dehors du fait qu'il y a des robots qui vous aident à chaque fois, on l'a compris.
François, pour certains, on dort pas beaucoup.
Voilà. Déjà, on dort peu. Deuxièmement, en fait, on milite pour justement des données ouvertes pour nous aider justement à gagner du temps, parce que on perd un temps fou.
L'essentiel du temps que vous perdez, c'est pour, pour traduire les données en langage compréhensible par les machines.
C'est vraiment les trois quarts du temps, c'est aller chercher les données. Et ce qui est fou, c'est que quand on discute avec des députés sur, en leur disant on n'a pas ces données-là, ils vont nous dire mais comment ça se fait, elles sont là. On leur dit non, on n'a pas ces données-là.
L'heure tourne, on a parlé un peu de tout ce que vous avez fait. À l'occasion des 5 ans que vous avez célébré il y a quelques semaines, vous avez choisi de regarder ce qui s'est passé, ce qui a évolué en France dans votre univers, dans l'univers de la transparence, des données ouvertes, et puis aussi de faire des préconisations sur le futur. Le premier domaine, et c'est peut-être le plus important, c'est celui de l'open data, où vous êtes quand même assez content de ce qui s'est passé en 5 ans. Et d'ailleurs, l'évolution de la France dans ce domaine a été, je ne sais pas si vous validez cette information, mais elle a été sanctionnée récemment dans un classement qui mettait la France en 3e pays en termes d'accès aux données ouvertes. C'était un classement effectué par l'Open Knowledge Foundation. Vous souriez en me regardant.
Ouais, oui. Nous, on est contre les classements. Tanguy, on trouve que simplifier l'information en disant oh, on est premier, on est deuxième, on est troisième, on trouve ça ridicule. On pense que la France, elle n'a pas à être classée. Elle doit faire des progrès en matière d'open data et elle doit faire encore beaucoup de progrès en matière d'open data.
Après, c'est vrai qu'elle n'a pas à rougir des progrès qu'elle a déjà fait lors des quelques années passées.
Alors,
mais pour autant, il y a toujours
progrès à faire ? Qu'est-ce qui a été fait qui est louable et quels sont les progrès à faire, s'il fallait résumer ? Votre tête.
C'est pareil. En matière d'open data, il y a eu effectivement des gros progrès qui ont été faits, notamment la création d'une équipe au sein de l'administration qui s'appelle Etalab, qui a créé un site qui s'appelle data.gouv.fr, dans lequel de plus en plus d'administrations publient des jeux de données. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est que l'administration s'est pas encore équipée pour que ce soit automatique, c'est-à-dire que quand automatiquement, lorsque on crée une dépense au sein de l'État, il est logique que ça devienne public, et donc on le fait. De la même manière que quand une commune prend une décision, elle publie un acte, ça c'est pas centralisé. Il y a une base de données qui centralise, mais le citoyen n'y a pas accès. Donc il y a plein de petits progrès comme ça pour que on passe d'une expérimentation de l'open data qui a lieu depuis 2011 et qui est très fructueuse à quelque chose qui soit un peu plus automatique et logique au sein de l'administration.
Donc c'est bien, mais il faut faire mieux. Il faut que les données qui sont produites encore aujourd'hui et qui vont être produites par le futur soient accessibles, soient ouvertes, soient faciles à consulter et qu'elles aient également des licences adaptées à vos usages. C'est ça, vos usages.
Qui permettent à l'ensemble des citoyens que ces données soient réutilisables sans risque, qu'on ne puisse pas attaquer un citoyen parce que il a trouvé des informations et lancé des alertes. C'est des choses qui sont importantes que les citoyens ne prennent pas de risque.
Vous avez également milité pour l'encadrement, la transparence dans la vie politique. Vous avez travaillé avec l'organisation Transparency International sur les déclarations d'intérêt, c'est-à-dire le moment où les hommes politiques, les députés, les élus disent « Voilà, j'ai travaillé pour telle entreprise il y a quelques années, ma femme travaille pour telle société, donc ça peut poser problème, autant que tout le monde le sache immédiatement. » Est-ce que ça, ce sont des domaines où on a suffisamment avancé à vos yeux, Benjamin ?
Alors c'est un sujet qui est étrange, c'est qu'en France en fait ça avance à chaque fois qu'il y a un gros problème, à chaque fois qu'on a une grosse affaire. Donc là en l'occurrence on a eu l'affaire Cahuzac, tout d'un coup il y a une loi qui est promulguée et qui,
donc un ministre du budget qui avait un compte caché en Suisse
et peut-être même plus que ça, et donc à chaque fois qu'on a une affaire en fait on a une réaction politique sous la forme d'une loi. Et pour le coup, de façon générale, peut-être que faire une loi à chaque fait divers, c'est peut-être pas la meilleure des choses, mais pour le coup, en général, c'est des lois qui font pas mal avancer les choses. On a eu le financement de la vie politique dans les années 90. Là, on a donc cette loi qui est appelée la loi Cahuzac, mais qui fait vraiment avancer la transparence.
Et qui a créé une haute autorité de la transparence
qui va contrôler les déclarations qui vont être remplies par les parlementaires, des déclarations d'intérêt et de patrimoine. Les déclarations d'intérêt sont rendues publiques.
En revanche, vous avez préconisé que les déclarations de patrimoine restent confidentielles, qu'on respecte la vie privée sur cette question. François ?
Tout à fait, parce que on n'est pas adepte de la transparence totale. Le voyeurisme, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui serait intéressant de publier ici, ce serait plutôt l'évolution du patrimoine, pour savoir si c'est enrichi de manière étrange. Ça, c'est beaucoup plus intéressant.
On va conclure cette émission. À l'occasion, donc, je le disais, des 5 ans, vous avez publié un document avec les priorités pour l'avenir. On va pas y revenir dans le détail. Puis, elle concerne beaucoup la France et elle ferait écho à pas mal de choses qu'on a déjà dites. Mais tout de même, quels sont les enjeux importants pour l'avenir à vos yeux, de la transparence, de l'ouverture des données, de la vie publique, vie politique, de l'implication du citoyen à l'échelle de la France et à l'échelle mondiale ?
À l'échelle de la France, nous notre conviction, c'est que lorsque une administration, un service public est payé par l'argent des citoyens, il contribue au bien commun. Et donc que ce bien commun soit préservé, que l'ensemble des citoyens puissent en jouir, c'est quelque chose d'important. Et je tiens à rappeler que RFI par exemple est payé par de l'argent public, et à nos yeux RFI participe à ce bien commun. Et un exemple par exemple pourrait être que RFI commence à faire de l'open data, commence à publier ses comptes sous un format tableur réutilisable, ou propose des contenus librement réutilisables pour ce que on puisse les utiliser après dans OpenStreetMap, dans Wikipédia, où l'ensemble des citoyens du monde puissent se réapproprier ces connaissances.
L'idée, c'est que toutes les organisations publiques, toutes les organisations aussi qui se veulent citoyennes et qui peuvent le faire, s'inspirent de ce que vous avez obtenu des administrations, c'est-à-dire plus de transparence, plus d'accessibilité, adopter des licences qui soient réutilisables, etc.
Absolument, l'adoption
on
des licences ouvertes.
On ne se limite pas à l'évident, quoi, c'est ça ?
Non, on ne se limite pas à l'évident. Le but du jeu, c'est de partager la connaissance pour que l'ensemble des citoyens puissent en profiter. Et donc, pourquoi pas commencer par l'ensemble des services publics, et par exemple le service public audiovisuel.
François ?
Un des objectifs que je vois, c'est effectivement la transparence de tous ces services publics qui du coup, se doivent d'informer les citoyens sur la façon dont ils dépensent.
L'exemplarité, quoi, en gros. Hein. Alors, c'est l'exemplarité, mais c'est aussi peut-être changer son regard sur la citoyenneté. Le citoyen, c'est pas que seulement cette personne qui vient un peu titiller les personnes de pouvoir, mais c'est aussi des personnes avec qui on peut coproduire l'information, coproduire les lois. Et c'est pour ça que nous, on fait du lobbying. C'est pas pour aller embêter nos députés. C'est pour permettre d'améliorer la loi et que tous ensemble, on estime, en partageant la connaissance, qu'on pourra construire de meilleures lois. Benjamin.
À mon avis, un sujet qui pourrait être investi à l'avenir par l'exécutif comme par les parlementaires serait de rendre public ce qui se passe dans les cabinets, dans les bureaux. Parce qu'en fait, le lobbying, nous on fait du lobbying, on propose des amendements, on écrit des amendements, on les envoie à tous les parlementaires, on les publie pour que les gens puissent savoir.
Vous tentez d'avoir de l'influence, notamment médiatique, en utilisant Internet, en
médiatique, utilisant les mais aussi technique, où on va proposer un amendement disant que, sur tel sujet, on pense que, justement, les lobbies devraient s'enregistrer, devraient déclarer les moyens qu'ils investissent pour faire du lobbying, et dire exactement ce qu'ils ont défendu.
Donc les lobbies, pour ceux qui ne suivent pas, ce sont des groupes d'intérêt ou
c'est
des représentants de groupes d'intérêt.
Moi, j'appelle un parlementaire pour dire, attention, je pense que telle loi est pas bien et qu'il faudrait pas la voter. C'est une forme de lobbying. Et on défend cette idée que le lobbying, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. En France, c'est très tabou. Mais en fait, le problème du lobbying, c'est pas le fait d'exercer une influence et de présenter une opinion. Au contraire, c'est normal que les parlementaires aient besoin de consulter la société civile ou les entreprises qui vont être concernées par les lois qu'ils écrivent. Ce qui est important, c'est que ce qui se passe autour, que cette proposition de texte soit faite de manière réglo, qu'on sache qui a été entendu.
Donc il faut
comment,
une transparence absolue.
Et que s'il y a de la corruption à côté, ben celle-là, il y a de la transparence et que les personnes soient condamnées s'il y a effectivement de la corruption qui est constatée.
Merci messieurs, merci Manon, merci aussi aux équipes de Bausala qui nous ont accueillis à Tunis pour le reportage qu'on a pu entendre. On trouvera sur l'atelier des médias la version longue de cette émission, avec notamment les députés que j'ai interrogés qu'on n'a pas pu entendre, et une version longue aussi du reportage effectué auprès des équipes de Bausala à Tunis. À bientôt.
Merci.
Merci Ziad, à bientôt.
L'atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias. http://atelier.rfi.fr.
You're tuned to the international sound.
Bonjour Francis Pisani.
Bonjour Ziad Mahalouf.
Comment ça va ?
Très bien. Et toi ?
Ça va très bien, merci beaucoup. Francis, aujourd'hui, tu veux nous parler de l'influence des jeunes sur l'évolution des villes. Explique-nous.
La thèse est simple, et je citerai le titre d'un article récent d'une publication américaine destinée aux responsables territoriaux. Le titre est donc « Les millennials, c'est-à-dire les jeunes nés entre 1980 et 2000, peuvent rendre les villes intelligentes ». Leur style de vie et leurs valeurs, comme leur aise naturelle avec les technologies, entraînent des transformations urbaines positives, et en tirer parti ne semble pas impossible, puisqu'il se rapproche naturellement du centre des villes. Signe qui ne trompe pas, à San Francisco, les grosses boîtes technologiques comme Facebook, Twitter ou Google commencent à investir downtown, c'est-à-dire dans le centre-ville, car c'est là qu'ont envie de vivre les jeunes ayant des diplômes, la passion d'entreprendre et du talent. L'attention portée à la génération de ceux qui sont devenus adultes au début du 21e siècle n'est pas récente, il faut reconnaître. Mais l'élément nouveau, c'est qu'un professeur canadien en tire une clé de lecture, voire une recette. Enseignant à l'université de Waterloo, Marcus Moose distingue la youthification, la transformation par les jeunes des centres-villes, du concept fréquemment utilisé de gentrification, c'est-à-dire leur transformation par les gens qui ont de l'argent. Les deux ne sont pas incompatibles, mais les jeunes ne sont pas nécessairement attirés par les mêmes facteurs que les couches sociales plus aisées. L'évolution de Vancouver, Toronto et Montréal lui permet d'établir une relation entre l'attraction sur les jeunes des centres-villes et leur densité, ce qui est un élément clé de la dynamique urbaine.
Ce point de vue est particulièrement intéressant, surtout quand on t'écoute depuis Paris, où le centre-ville est très difficilement accessible aux personnes qui gagnent peu, aux personnes qui commencent à travailler. Mais est-ce que tu ne crois pas qu'une seule étude pour avancer cette hypothèse, c'est un peu léger, Francis ?
T'aurais raison, si c'était la seule, mais ça n'est pas le cas, j'en ai trouvé plusieurs autres, en tout cas, qui avancent des points qui vont dans le même sens. D'une part, le poids du coût de la vie est confirmé par Youthful Cities, une initiative de l'agence DecodeNet. Elle a notamment produit un index d'abordabilité qui classe les villes en fonction du coût des services auxquels les jeunes accordent de l'importance. Ça inclut, entre autres, les prix d'une douzaine d'œufs, du transport, d'un concert, du logement et le salaire minimum. Et surprise, surprise pour toi notamment, Paris, d'après eux, est la ville la plus abordable du monde pour les jeunes, juste avant Toronto et Los Angeles, Berlin arrive en 5e, Johannesburg est 15e, Nairobi 24e. L'ambiance culturelle compte aussi, les jeunes semblent sensibles aux villes diverses en termes de composition ethnique, ouvertes aux migrations, et dans lesquelles l'égalité des genres, c'est-à-dire des sexes, est respectée ainsi que la liberté des gays. En matière de transport, les millennials s'intéressent moins aux voitures que leurs parents. Une étude de Zipcar, financée par la Fondation Rockefeller, révèle qu'aux États-Unis, 17% des 18-24 ans n'ont pas de permis. Plus d'un tiers cherche une alternative au fait de conduire et plus de la moitié affirme qu'ils conduiraient moins si les transports publics et le partage de véhicules étaient accessibles dans leur communauté. Les millennials sont donc multimodaux, un terme clé qui dépasse le vocabulaire des ingénieurs et des spécialistes des transports pour devenir une sorte de positionnement culturel et social. Il s'agit là, je crois, d'un concept amené à prendre de l'importance.
Merci Francis Pisani. Je rappelle qu'on peut réécouter, relire toutes tes chroniques sur ton blog de l'Atelier des médias. On peut aussi découvrir tes écrits sur francispisani.net et sur les sites de l'Opinion et de la Tribune. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Ziane.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 373 de l'Atelier des médias proposée par Marie-Catherine Beuth, Francis Pisani, Manon Mella, Mélissa Barra, Dilette Sadawi, Julnar Douek, Raja Yahyaoui, Simon De Creuse et Ziad Malouf. N'hésitez pas à nous suivre, à nous lire, à nous contacter sur Twitter, Facebook, atelier.rfi.fr, mondeblog.org, libiablog.org et arablog.org. Merci pour votre écoute, pour vos réactions, vos encouragements. Salut à toutes et à tous.
C'est fini ou c'est pas fini?
Ah ouais, les bonus.
Les bonus.
Ben, ça continue sur Internet.